Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrier.
Un grand journal où on parle d'abord de musique et de streaming, bien sûr. Neutralité du net avec Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM. Merci encore une fois d'être avec nous, Jean-Noël Tron. Surtout que, il a fait de la musique ce week-end. Et puis, demain, journée portes ouvertes à la SACEM. On va quand même dire, la SACEM, c'est une forme de coopérative musicale, ou en fait, coopérative des auteurs pour se faire payer les droits d'auteur. C'est dire si vous êtes aussi au cœur de l'actualité. Manuel Valls, tout à l'heure, a fait son discours un peu sur sa vision du numérique, stratégie du numérique, on en parlera aussi avec Benoît Thulin. Il a parlé de neutralité du net en disant que c'était un peu une ligne rouge à pas franchir. Est-ce que quelque part, il s'est peut-être essayé de retrouver une virginité par rapport aux internautes après la loi sur le renseignement? Comment est-ce que vous voyez les déclarations du Premier ministre?
Écoutez, je note que le Premier ministre a touché du doigt quand même un sujet fondamental, et je pense que c'est bien qu'il l'ait fait. Beaucoup de nos voisins européens, les Allemands l'an dernier, les Espagnols, les Britanniques viennent de le faire, posent la question de la dominance sur le net, et notamment de Google. On a parlé de Google Lex pour l'Allemagne. La Commission européenne, il y a deux mois, a ouvert une enquête. Et donc, quand on parle de neutralité du net, il faut simplement s'assurer qu'on parle du vrai sujet. Le sujet, c'est que tous les acteurs économiques puissent jouer dans la même cour, avec les mêmes chances. La SACEM fait partie d'une initiative européenne qui s'appelle l'Open Internet Project, et qui pose des questions auxquelles il va falloir qu'effectivement les gouvernements répondent, pour protéger les consommateurs, les internautes, et pour, encore une fois, que chacun puisse jouer à armes égales. Quand des entreprises dominent 90-95% d'un marché, y compris dans l'Europe de la libre concurrence, ça pose des questions auxquelles il faut quand même qu'on réponde d'urgence.
C'est-à-dire que
la Commission a lancé un grand projet qui s'appelle le marché unique du numérique.
Digital, oui.
La Commission a voulu s'en prendre aux droits d'auteur comme étant une des barrières. C'est tout le contraire. Les œuvres n'ont jamais circulé autant qu'elles le font aujourd'hui sur le net, grâce notamment au commerce électronique. En revanche, il faut que chacun soit traité de la même manière. Et quand on diffuse sa musique aujourd'hui, il y a des sites avec lesquels on peut négocier les droits d'auteur. Il y en a d'autres avec qui on peut pas le faire parce qu'ils sont protégés par un texte communautaire qui a 15 ans et qu'il faut réviser d'urgence, qui est la directive sur le commerce électronique.
Lesquels sites, juste pour mémoire, lesquels sites?
Aujourd'hui, la SACEM a 400 licences numériques avec les services Internet. Donc à peu près tous les services, que ce soit téléchargement comme iTunes ou streaming, comme Deezer ou Spotify ou YouTube pour le gratuit, ont une licence SACEM et payent droits d'auteur. Il se trouve qu'une enquête a montré il y a peu que un tiers des recherches sur Google sont liées à des biens culturels, que sur Facebook, plus de 40% des likes ou des shares sont liés à des biens culturels. Or, aujourd'hui, les grands intermédiaires techniques de l'Internet, comme on les appelle dans le droit, sont quand même à l'abri de beaucoup de formes de responsabilité, qu'elles soient en matière de protection de la vie privée, qu'il s'agisse de payer les impôts ou qu'il s'agisse de payer les droits d'auteur. C'est ça la question qui doit être posée.
Et Google qui se lance dans la musique à la demande?
Alors, Google a lancé le Google Music Store il y a 2 ans. On a d'ailleurs tout de suite signé une licence avec eux. Donc c'est un service qui se cherche, je crois. Là, la grande nouvelle, c'est vraiment le nouveau service musique de Apple. Ça, c'est vraiment un grand bouleversement.
Ah oui, j'ai dit Google, pardon. Bien sûr, je pensais à Apple qui croque la musique. Pardon,
j'avais tenté de lire dans votre esprit.
Oui, absolument, tout à fait. C'était Apple, bien sûr. Oui. C'est ça la nouveauté, c'est ça la révolution.
Oui, alors...
Et justement, en quoi c'est une révolution?
Pour le coup, Apple suit un grand mouvement qui est que Apple, qui a lancé le téléchargement avec iTunes il y a une dizaine d'années, rejoint la révolution du streaming qui fait qu'aujourd'hui, en seulement 3 ans, la majeure partie de l'usage de la musique sur Internet se fait en écoute, le streaming, plutôt qu'en téléchargement. Et donc le nouveau service que lance Apple rejoint cette révolution, que ce soit des services payants ou que ce soit des services gratuits, que ce soit Spotify ou Deezer, qui sont d'ailleurs deux champions européens du net et du numérique, ou que ce soit un service gratuit comme YouTube.
Ben justement, c'est un peu autour de tous ces thèmes que Emmanuel Lechypre a choisi. Son chiffre, c'est donc le chiffre de Lechypre. Emmanuel, rebonsoir. 69%, c'est le chiffre que vous avez retenu ce soir, c'est la proportion des Français qui souhaitent, dans les 12 mois à venir, consommer en fait de la musique grâce à la location par abonnement. Donc c'est, on voit bien l'évolution peut-être des comportements par rapport à la musique.
Oui, absolument. Alors ce qui est intéressant avec le secteur justement du monde de la musique et... Allez, j'ai envie d'étendre au monde de la culture en général, c'est que c'est toujours un secteur qui est à l'avant-garde des nouvelles habitudes de consommation. Et le nouveau mode de consommation qui émerge effectivement, c'est le mode de consommation par abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun intérêt à être propriétaire du morceau de musique que vous achetez, puisque vous pouvez avoir accès à tout en permanence, moyennant un abonnement. Et c'est un phénomène qui est en train de déferler littéralement. Le chiffre que vous avez cité est issu d'un sondage qui a été fait par l'IFOP pour Zuora, qui est la société spécialisée dans les solutions de paiement à l'usage. Et alors, quand on voit effectivement, et c'est ça qui est intéressant, que les biens culturels sont en première ligne, hein, 87% des Français se disent dans les 12 mois avoir la volonté de consommer des films, par exemple, par abonnement, 74% pour les livres, 69% pour la musique, et en général... C'est 49%, c'est-à-dire qu'il y a 49% des habitudes de consommation sur lesquelles les Français sont prêts à aller sur l'abonnement. Je reviens pas sur les chiffres de Warner, hein, qui dit que pour la première fois, le chiffre d'affaires du streaming a dépassé le chiffre du téléchargement. Mais si vous prenez l'enseignement, la voiture, le voyage, la téléphonie, l'informatique, les jouets, les vêtements, les hi-fi, dans cette enquête, vous avez plus du tiers des consommateurs qui disent qu'ils sont prêts à passer sur un mode de logique par abonnement.
Ça veut dire que, d'abord, j'imagine que vous connaissez évidemment très bien tout ce secteur. Vous approuvez ce que dit Emmanuel, ça corrobore un peu les chiffres que vous avez, ou en tous les cas, les tendances, j'imagine.
Ça les corrobore totalement. Ça me fait d'ailleurs penser à quel point cette économie est importante pour notre pays. Je rappelle que l'économie de la culture en France, c'est 1,2 million d'emplois. Et au niveau européen, c'est 7 millions d'emplois. Mmh. Dans les deux cas, c'est le troisième employeur. Et ça répond à ce que les consommateurs ont envie de faire. Et derrière ça, c'est toute une création artistique qu'il faut... arriver à continuer à financer pour qu'il puisse y avoir des œuvres que les consommateurs, justement, aient l'occasion de découvrir.
Et on voit en streaming en France, c'est 57% des ventes et en téléchargement, c'est 43%. Ça, c'est les chiffres ventes numériques 2014. Hein.
Alors ça, c'est par rapport, à une consommation de la musique, qui est la consommation, entre guillemets, physique. Les ventes de disques à une époque et de CD et DVD qui baissent aujourd'hui et qui sont remplacées par ces nouveaux usages. Bon, oui. N'oublions pas que dans le cadre de la musique, 80% de modes de consommation de la musique, il reste encore aujourd'hui hors le net. C'est la radio, c'est la télévision, c'est la diffusion dans les lieux publics, c'est les concerts, doublement du nombre de spectateurs en 10 ans. Et puis, c'est tous ces lieux dans lesquels on va faire ses courses, on va se faire couper les cheveux, dans lesquels des gens diffusent de la musique gratuitement, payent des droits d'auteur, ce qui est normal, pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Et ça restera toujours un mode d'utilisation de la musique surabondant, parce que la musique est de plus en plus présente dans tous les moments de notre vie.
Si juste vous avez un petit algorithme, comment vous faites pour répertorier tout ce qui se passe dans les avions, chez le coiffeur, chez nous, chez Emmanuel? Comment est-ce que vous faites?
D'abord, on a des utilisateurs de nos répertoires avec qui on signe des licences. Et la contrepartie, c'est que, par exemple, une chaîne de télévision ou une chaîne de radio, c'est le cas pour BFM, va nous fournir la liste des offres qui ont été diffusées. Dans un autre exemple que je vais vous prendre, les discothèques, il y a une entreprise privée qui a des boîtiers et qui, de manière aléatoire, donne une playlist et qui permet de savoir ce que les gens écoutent. Donc ça peut être des sondages, ça peut être de l'enquête, ça peut être du déclaratif. Quand on est sur le net, là c'est les fichiers qu'un YouTube ou qu'un iTunes va donner et on sait précisément à qui on va pouvoir verser les droits. Parmi nos un peu plus de 70 000 sociétaires cette année, auteurs, compositeurs et éditeurs qui ont reçu des droits que leur société a pu leur verser, le net croît, et là on arrive à se rapprocher de l'œuvre réelle, rémunérée vraiment en fonction de ce qui a été streamé ou de ce qui a été téléchargé.
Oui, c'est assez intéressant, et en même temps c'est vrai que c'est... on dit que votre métier est en train d'évoluer énormément. Il est complètement en train de basculer.
Vous me parliez de mon ami Benoît Thiolin. Je pense que s'il y a une boîte dans ce pays qui est au cœur du big data, ou des mégadonnées, c'est nous. L'an dernier on a traité 835 millions de données de diffusion, on en avait traité 6 millions en 2006. Et si on pense juste au stream unitaire, au téléchargement, on en a traité 250 milliards. L'an dernier, c'était 65 milliards. Donc la gestion collective, elle a comme énorme vertu que dans l'univers numérique, elle est probablement le seul modèle qui permet de traiter de manière solidaire et équitable. Quand on négocie un taux avec YouTube, c'est le même que vous soyez une major ou un petit artiste indépendant. et en même temps traiter la complexité de la big data d'aujourd'hui, qui est évidemment la révolution majeure, je dirais, des technologies de l'information depuis deux ans.
Mais ça veut dire que votre modèle, il change complètement, mais en termes de rémunération, enfin droit d'auteur en l'occurrence, comment ça s'adapte ?
Le droit d'auteur, c'est probablement de tous les droits celui qui s'adapte en permanence depuis deux siècles qu'il existe.
Ouais, mais au point qu'on s'en est un peu perdu. Ouais.
Oui, mais il y a eu un droit d'auteur avant l'invention du disque. Il y aura un droit d'auteur après la disparition aussi bien du CD que du vinyle, même si le vinyle remonte temporairement et un petit peu symboliquement. Donc, l'important, c'est qu'on garde un modèle économique dans lequel ceux qui créent puissent être rémunérés pour leur création et que les utilisateurs de biens culturels puissent avoir accès à toutes les œuvres. C'est quand même ça la révolution du web depuis 10 ans en Europe. Moi, j'ai fait le calcul. Le nombre d'œuvres, livres, disques, films, séries télé, à laquelle un citoyen habitant dans le monde rural peut avoir accès a été multiplié par 100 000 en 10 ans grâce au net. C'est quand même ça la meilleure réponse à ceux qui pensent que le droit d'auteur aujourd'hui serait un obstacle, alors que c'est au contraire un énorme atout pour financer la création.
Droit d'auteur collecté en 2014, c'est 830 millions. C'est déjà beaucoup. Juste une question justement par rapport aux playlists. Là aussi, ça doit complètement bousculer votre modèle, non ? Qui circule, c'est non ?
Non, parce qu'en réalité, le nombre d'œuvres sur lesquelles des droits sont répartis explose. 2 millions d'œuvres l'an dernier ont donné lieu à une répartition de droits. Et sur ces 2 millions d'œuvres, il peut y avoir des tas de compositeurs ou d'auteurs ou d'éditeurs qui partagent en fait les droits, puisqu'il y a une fragmentation de plus en plus des droits, surtout dans des nouveaux genres comme l'électro ou comme l'urbain, qui est quand même avec le hip-hop le principal phénomène culturel mondial et français notamment depuis disons une quinzaine d'années. Donc ça ne change rien dans le modèle. Même si dans les volumes, ça change tout, parce qu'on a, on a la longue traîne, comme on dit aujourd'hui, sur le net.
J'adore les petits top 5, surtout que vous en avez un, sur les 5 chansons qui se sont les plus, qui ont été le plus écoutées, vendues. Vous pouvez nous le dire ?
Alors, à tout seigneur, tout honneur, des sociétaires SACEM en premier, c'est Get Lucky des Daft Punk.
Ouais.
Après, on a Blurred Lines et on a Wake Me Up de Avicii.
Et Pharrell Williams, oui.
Pharrell Williams sur Blurred Line, absolument, en featuring. Et enfin, en quatrième, Papa Outhet Stromae, également membre de la SACEM, qui pour moi est un très très bel exemple de l'importance de la chanson française, parce que Stromae à Coachella, qui est le plus grand festival américain et peut-être du monde, c'est 40 000 personnes qui dansent, qui sont pas francophones et qui chantent en yaourt, comme on dit, sauf qu'ils font du yaourt français. C'est comme Zaz, ouais, qui a quand même vendu 600 000 albums en Allemagne, chanté en français.
Et le cinquième, j'aimerais bien que peut-être Emmanuel Le Chip nous le danse, c'est le Gangnam Style de Psy, non ? La cinquième chanson.
Notre ami coréen.
Oui, notre j'avais ami coréen, c'est incroyable quand même.
J'avais vu au Midem il y a deux ans.
Oui.
Ça, c'est évidemment un phénomène extraordinaire qui reste un peu atypique, qui est la découverte entièrement par le web. Même si quand on discute et qu'on l'écoute, on voit que c'est un artiste qui a
très marketé.
Non, j'allais dire qu'il y a une carrière solide qui s'est construite et on oublie que même aujourd'hui des phénomènes, je pense par exemple à Fauve l'an dernier, sont des gens qui se sont développés pendant 10 ans avant d'éclater, avant d'exploser médiatiquement, que ce soit dans le live ou que ce soit sur le web.
Faites de la musique rapidement, vous voyez, dès qu'on parle de musique, ça passe très vite, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Faites de la musique le 21 juin et puis surtout demain, ouverture, vous ouvrez vos portes à la SACEM et surtout dans 70 lieux à peu près, même un peu, encore un peu plus, des écoles. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Promouvoir la musique ou quoi ? Ou séduire ?
On voudrait, ni l'un ni l'autre, on voudrait juste expliquer ce qu'on fait, expliquer qu'on est au service de nos membres, qui sont les propriétaires de la SACEM, qui est une coopérative, une société privée à but non lucratif. On ouvre 70 de nos délégations au public. À notre siège, on va faire journée porte ouverte toute la journée. On a des artistes, on a Zebda à Toulouse, on a Cascadeur à Metz ou Parawan à Paris, qui vont expliquer ce qu'ils font. La nouveauté de cette année, c'est qu'on va dans les classes. Demain, moi, je suis dans des classes de CM2 avec Fefe, l'un de nos grands sociétaires, qui vont expliquer ce que c'est qu'un auteur ou un compositeur aujourd'hui. On connaît souvent la maison de disque et l'interprète. On oublie qu'avant toute chose, il y a un éditeur de musique, il y a un compositeur, il y a un auteur, et que eux vivent de leur droit d'auteur à travers leur société qui est la SACEM. Donc, on va faire de la pédagogie, de l'information, on va répondre à des questions, on va faire des concerts, on va organiser des tournées. Voilà.
Et faites de la musique ?
Dimanche. Donc là, on sera tous dans la rue, dans les concerts, pour vivre ce grand moment de communion nationale, qui est aussi un bon exemple de l'export français, puisque quand ça a été inventé il y a 30 ans, c'était une initiative française. Aujourd'hui, vous avez, je crois, près d'une centaine de pays dans le monde qui fêtent aussi la musique comme on le fait en France.
Je reviens un instant, il nous reste peu de temps toujours. Sur Deezer, le fait que Deezer reste français, ça avait un sens ou pas pour vous ?
C'est déterminant. C'est pas seulement
Pourquoi ?
Que ça a un sens. Parce que il y a beaucoup de nos actifs qui ont disparu. Alors dans l'industrie des télécoms, notre industrie a été à peu près entièrement démolie. Effectivement, moi j'ai dirigé un opérateur mobile et j'ai été frappé de voir que 5 ans après que j'y sois rentré, sur 10 marques qu'on vendait, il n'y en avait plus qu'une qui était européenne, qui est Nokia, qui maintenant est passée aux États-Unis. Mmh. Là où quand j'y étais rentré, c'était l'inverse. 9 marques sur 10 étaient européennes et que les boîtes en question, que ce soit Siemens, Sagem, Alcatel ou encore Philips qui fabriquaient des portables, ont carrément disparu. Bon. Donc nos actifs, ils sont où ? La croissance de demain, elle est où ? Un secteur comme les industries culturelles, qui pèse 1 200 000 emplois pour l'économie de la culture, y compris la dépense publique, y compris les musées, y compris les conservatoires, c'est une des chances de croissance pour ce pays demain. Deezer, de même que Spotify, qui est une invention suédoise, c'est des champions européens du numérique liés à l'industrie de la culture, et ça vaut vraiment la peine de se battre pour développer nos champions. La SACEM, c'est la plus grande société de tour au monde. Universal, c'est la première maison de disques. Donc des champions comme ça, on en a dans tous les domaines.
Voilà, absolument, comme ça c'est dit. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Bonne journée, portes ouvertes demain. Merci Emmanuel Lechypre. Dans un instant, notre invité c'est Bernard Charles, directeur général de Dassault Systèmes. Je crois que vous connaissez bien, on reste toujours dans le numérique, mais là c'est un petit peu différent peut-être. On parlera notamment d'avion. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal Edwige Chevrillon.
Un grand journal, on parle du salon du Bourget, mais aussi du numérique, puisque notre invité, c'est le patron d'Assos Systèmes, Bernard Charles. Merci d'être avec nous. Bernard Charles, dernier jour, en tous les cas, du salon du Bourget pour les professionnels. Demain, c'est la grande fête pour tout le monde. Est-ce que pour vous, c'est un très bon salon du Bourget? Si, ça fait, je crois, le 25e ou quelques salons du Bourget auquel vous assistez, s'il fallait le qualifier?
Ah, je crois qu'il y a des choses nouvelles. Ce salon, il est marquant d'abord par le carnet de commandes que de chacun des grands acteurs, que ce soit Airbus, Boeing, mais aussi tous les acteurs. L'annonce de nouveaux programmes, les hélicoptères pour Airbus Hélicoptères. Mais surtout quelque chose qui, pour moi, restera un point marquant de 2015. En 2013, c'est tous les deux ans, en 2013... Nous ne parlions pas d'impression 3D, nous ne parlions pas de gestion de grandes données pour faire de la maintenance préventive. C'est un sujet qui est au cœur cette année de toutes les transformations de ces grands acteurs. Et c'est incroyable de voir qu'une société, une industrie aussi sophistiquée puisse évoluer de manière aussi vite en observant que l'impression 3D devient un produit de grande consommation de public et les dirigeants se disent « mais je vais changer mes modes de production ». Donc, je pense que, vous savez, ce programme d'usine du futur, lancé d'ailleurs avec le support du gouvernement et de la transformation de nécessaire pour l'écosystème de production en France, quand même créateur d'emplois et essentiel, je pense qu'on est là devant une nouvelle perspective et vous verrez que l'avion 2025 sera très différent de l'avion 2015.
Donc, pour vous, ce salon du Bourget 2015 est une rupture ?
C'est une rupture. Je crois qu'il y a à y avoir un changement important dans la manière dont les avions sont produits grâce à la révolution des usines numériques. On a fait cette révolution dans ces dernières 20 années sur le dessin de l'avion, sur les plans qui sont 3D maintenant, la maquette numérique, et désormais le système de production va changer.
J'ai vu quelque part que vous avez un plan B pour les Mistral, vous savez, ces fameux navires de guerre que la France ne veut plus vendre aux Russes. C'est quoi votre plan B?
C'est un commentaire d'un passionné qui expliquait comment les logiciels de Dassault Systèmes peuvent être utilisés pour l'industrie navale. Et on rêve d'avoir tous les clients d'industrie navale du monde, comme on a les États-Unis, bien sûr.
Ouais,
comme
et en quoi le rapport avec la Mistral?
Non, il n'y a aucun rapport et c'est une maladresse de communication, je pense.
D'accord, donc, parce que c'est vrai. On a envie de vous voir partout dans ce système, c'est-à-dire que vous parlez de l'impression 3D, ça c'était vraiment ce que vous avez présenté notamment au Salon du Bourget, vraiment une révolution, parce qu'au départ on a l'impression que c'est pour un objet, on casse quelque chose, on peut le faire, mais là ça peut marcher pour des avions et pour des avions militaires.
Et pour tout type pour de tout. Pièces très sophistiquées. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on parle aujourd'hui d'impression 3D, les gens pensent à un objet en plastique, polymère ou autre. On peut faire des matériaux très sophistiqués qui ont des caractéristiques exceptionnelles. Et figurez-vous qu'en faisant l'impression 3D, on peut réduire le poids des pièces en moyenne de 30%. Ce qui est considérable pour l'industrie aéronautique, puisque c'est toujours une course à la réduction de poids, mais même aussi dans le transport. Par ailleurs, vous n'avez plus de stock. Les pièces détachées, vous pourrez les imprimer là où vous avez besoin de les obtenir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des centres de production répartis.
Avec la même sécurité qu'une pièce produite
la même sécurité,
sur une chaîne.
La même sécurité, une très grande qualité et une capacité à faire un niveau équivalent aux exigences de l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est prouvé. Et je pense que c'est une révolution inéluctable qui va changer le modèle économique de toute l'industrie manufacturière.
Qu'est-ce qui fait ça ? Il n'y a que vous, Dassault Systèmes ? Non, évidemment, c'est un marché tellement gigantesque.
Ah, il y a plusieurs
opérateurs.
D'abord, nous sommes leader mondial de la modélisation de précision. Ensuite, il faut la machine. La machine, c'est la mise en œuvre de matériaux et puis vous les déposez par couches. Donc, on est capable de faire des pièces qui ont des formes absolument étonnantes qu'on n'aurait pas imaginées dans le design traditionnel. Et enfin, il y a la science des matériaux d'Assos System depuis l'acquisition de cette société. On a quand même investi 1 milliard dans les 2 dernières années sur la science des matières, de l'atome à la pièce. Et on est le leader mondial dans ce domaine, puisque ça sert aussi pour les sciences de la vie. Je vous rappelle que tout ce qui est stents et autres pièces, c'est fait par la simulation et les modèles de Dassault Systèmes. Je pense que les sciences de la matière vont changer profondément l'ensemble de l'industrie, la manière dont on produit, les objets, et surtout réduire de manière considérable l'empreinte écologique. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez plus besoin de gérer des stocks et donc d'expédier des pièces de rechange de par le monde.
Oui, donc ça commence à changer tout. Enfin, on perçoit très bien avec vous, parce que c'est assez concret finalement. Ces avions, l'avion du futur, avec des pièces fabriquées par des impressions 3D, ça peut alléger, vous disiez, le coût de combien ?
Ça allégera de manière...
Le poids, pardon.
Le poids. Alors, c'est pas sur toutes les pièces. Il y a certaines pièces où ça peut pas fonctionner. Mais pour des pièces standards qui sont montées dans l'avion, on peut avoir entre 10 et 30% de gain de poids. C'est considérable. Mmh. Et en termes de coût aussi, ça a un effet important. Mais je pense que ça... Il y a un autre phénomène, c'est la fameuse technologie des Internet des objets. On en parle beaucoup dans le numérique. Comment ces objets vont s'échanger. Ben, figurez-vous que cette technologie... qui est une technologie du consommateur, pour vous et moi, dans la mobilité, etc., va avoir une influence considérable sur l'intelligence des usines. Parce qu'il n'y a pas de raison que tous les équipements dans les usines ne se mettent pas à communiquer entre eux. Et vous allez vous retrouver avec des systèmes dont le ballet, comme la chorégraphie de l'usine, va changer de manière profonde. Et en réalité, je pense qu'on va avoir des usines de plus en plus petites, de plus en plus modulaires, mieux réparties et plus proches du lieu où la consommation se fait.
Oui, c'est ça qu'on a envie de dire, c'est que du coup, c'est presque... Ça crée une relocalisation.
Ça crée une relocalisation.
Oui.
Et je trouve que ça démocratise la passion de créer. Vous savez, c'est pas Fab Lab dont on parle fréquemment, où des entrepreneurs se réunissent. Il y en a en France un certain nombre. Il y a une dynamique formidable. Figurez-vous qu'aujourd'hui, des entrepreneurs en quelques jours, des jeunes équipes peuvent créer un drone. Moi, je suis admiratif des drones parce que je trouve que c'est les commandes de vol, c'est la réalisation d'objets qui étaient compliqués à faire jadis. En quelques jours, aujourd'hui, avec nos logiciels et les simulations, vous êtes capable de produire vous-même un drone.
Alors, reste le moteur, reste l'équipement quand même, enfin autour, non ?
Mais vous pouvez faire un drone pour 50 euros.
Ouais.
Donc, vous imaginez, d'abord, en termes de formation des jeunes, passion, création, imaginer l'avenir différemment, innovation durable, on est dans une dynamique d'apprentissage, d'éducation, d'envie de créer nouvelles parce que l'on peut non seulement créer en virtuel, mais réaliser en physique. Et cette révolution, nous sommes présents dans 450 centres dans le monde de Fab Lab, où on voit des entrepreneurs créer des produits nouveaux, réussissent pas tous, mais c'est ça qui va créer finalement un environnement nouveau, la modélisation de la ville, des capteurs un peu partout qui vous donneront des informations. Alors, on est dans une ère du numérique qui commence à s'appliquer de manière concrète, non plus uniquement à l'échange entre vous et moi ou avec nos collègues, mais dans la réalisation des produits.
Dans la vie. La question que je me pose toujours en vous écoutant, c'est, on voit que ce que vous faites, ça peut s'étendre à tout. Et enfin, j'allais dire tout et n'importe quoi, parce que l'expression pour dire vraiment, c'est à tout. Des avions, aux t-shirts, on le dit à chaque fois. Mais vous n'avez pas les moyens de suivre toute cette transformation numérique. Enfin, c'est plus qu'une transformation numérique pour Dassault Systèmes. Qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus ?
Ah, mais on la suit pas. On la provoque.
Précède, ouais.
On la provoque. Car nous sommes les premiers au monde à avoir permis qu'un avion soit fait en virtuel, une automobile. La semaine dernière, le gouvernement de Singapour a annoncé le fait que la ville de Singapour,
incroyable, ça,
allait être virtualisée grâce à la plateforme Dassault Systèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sera présentée aux citoyens toute modification de la ville en termes de construction, d'architecture. Ce sera présenté aux citoyens qui donnera son avis. Je vous donne un autre exemple. Les flux déchets, les flux énergie, les flux d'installation des lieux de santé, des lieux d'éducation pourront être présentés aux citoyens avant de transformer la ville. Aujourd'hui, vous voyez, nos villes évoluent tout doucement. Elles évoluent en faisant et en refaisant. Cette application, figurez-vous que c'est un laboratoire basé à Rennes dont nous avons fait l'acquisition. Et d'ailleurs, la ville de Rennes avait fait des choses extrêmement innovantes sur ce sujet. Et désormais, Dassault Systèmes montre que sa plateforme va pouvoir traiter des données gigantesques d'amélioration de la qualité de vie dans les villes. Et quand vous pensez que 70% des populations du monde va se retrouver dans les villes en 2050, vous comprenez que c'est un facteur essentiel en Chine,
voilà,
en Afrique.
Mais vous ne pouvez pas développer partout, être à Rennes, à Singapour, en Chine, Los Angeles, à New York, faire des avions, faire des t-shirts, faire des voitures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, c'est limite d'un système. En plus, vous restez quand même une entreprise, vous n'êtes pas une multinationale au sens gigantesque du terme.
Ça dépend comment vous regardez les choses. Si je regarde aujourd'hui le nombre de projets dans le monde qui sont faits par les logiciels de Dassault Systèmes, c'est 1500 milliards de dollars de projets en développement avec les logiciels de Dassault Systèmes.
Mais votre chiffre d'affaires, il est de combien en 2014?
Notre chiffre d'affaires, c'est de 2,8 milliards.
Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est du chiffre d'affaires récurrent. Nous sommes critiques pour les entreprises. Et 1500 milliards de programmes de développement en cours en utilisant les logiciels Dassault Systèmes pourraient me dire... Dassault Systèmes pourrait faire 10 milliards de chiffre d'affaires, mais on le fera un jour. Bien sûr, parce qu'on est critique et qu'on
fait... Vous l'aviez promis à ce même micro, hein, du reste.
Mais ce que j'ai dit à ce micro, c'est qu'en 5 ans, nous doublerions la taille de l'entreprise.
Ouais.
Et ça va se faire. Nous sommes bien en position pour le faire entre 2014 et 2019.
Mais c'est là où je vous repose ma question. Est-ce que vous avez vraiment les moyens, alors pas d'accompagner, de provoquer, etc., cette révolution? Parce qu'on a envie de dire qu'il faut aller encore plus vite, il faut avoir encore plus de moyens, avoir encore plus de personnes pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire.
Aujourd'hui, par rapport à la capacité d'investissement que l'on a, les moyens ne sont pas le facteur.
D'accord.
Ce qui est le facteur déterminant aujourd'hui, c'est la capacité des entreprises à se transformer dans leur organisation, dans leur apprentissage des nouveaux outils. Et croyez-moi, ceci est beaucoup plus lent. Figurez-vous que le premier avion numérique a été fait il y a 25 ans. Il est sorti le 777 en 1994. Eh bien, 21 ans plus tard, on a encore des entreprises qui se posent la question de savoir si la maquette numérique est indispensable. Elle l'est, évidemment. Mais vous voyez, la transformation des entreprises prend du temps parce que c'est une affaire d'organisation, d'hommes, de savoir-faire.
Mais en même temps, elle s'accélère énormément en ce moment. On le voit bien. Vous-même, vous le disiez, c'est normal, c'est votre métier. Mais nous, on le sent bien, cette transformation numérique, tout d'un coup, elle s'accélère partout. Par la musique, évidemment. C'est souvent, les biens culturels sont pionniers comme vos secteurs. Mais là, maintenant, transformation numérique, c'est vraiment partout et de plus en plus. Donc là, ça va s'accélérer, votre mouvement.
Ça s'accélère, bien sûr. Et le portefeuille de marques de Dassault Systèmes, c'est 12 marques. 6 d'entre elles sont numéro 1 mondial.
Ouais.
C'est quand même important. Dans différents secteurs, du design à la simulation à la production, nous sommes leaders mondiaux et nous continuons de renforcer nos parts de marché. Donc, je suis ravi que les demandes augmente. Et évidemment, on a un écosystème avec des partenaires qui est extrêmement important. Mais la transformation, vous savez, faire un avion ou faire une voiture, c'est plus compliqué que faire un service sur Internet pour réserver un appartement ou vendre un appartement.
C'est ce business autour de l'impression numérique 3D, c'est un business qui représente combien? Vous avez estimé ça?
C'est un business qui va être considérable puisque c'est le nouveau moyen de production. Donc, il y a différents acteurs. Il y a ceux qui font les machines, donc les nouveaux procédés. Il y a les nouveaux fournisseurs de matières, donc c'est l'ensemble de l'industrie dans sa transformation depuis la transformation des ressources naturelles et leur utilisation et la définition de nouveaux matériaux qui se construit. Nous sommes le catalyseur du possible.
Et c'est l'impression 3D de pièces qui ont été déjà conçues, c'est des pièces de remplacement ou c'est l'ensemble du chaîne, je sais pas, on peut imaginer que des voitures soient les voitures de PSA, Peugeot, Citroën soient faites rien qu'avec des impressions 3D.
Alors, il y a eu des expériences de fait.
Ouais.
Et il y a une expérience récente, vous avez raison de le mentionner, où une voiture complète a été imprimée en 3D. un moteur d'avion a été imprimé en 3D. Figurez-vous, le moteur, pas les pièces, le moteur. Il n'y a pas eu d'assemblage à faire, l'ensemble du moteur a été réalisé. Je pense que ceux-ci sont des cas extrêmes, qui ne sont pas réellement viables. Ce sera des modules, des pièces compliquées, mais ce ne sera pas les mêmes que le design qu'on connaît aujourd'hui. Car on va pouvoir aller vers un nouveau degré de qualité de design et d'optimisation. On pourra faire des bijoux. On a fait une expérience avec Intermarché, pour ne pas le citer, pardonnez-moi, de bijoux au moment en février, à la Saint-Valentin. Et les consommateurs pouvaient paramétrer en 3D et obtenir un bijou, un cœur en 3D, marqué des prénoms qu'ils souhaitaient. On a eu des millions d'accès pour pouvoir fournir ces cœurs en 3D paramétrés avec impression.
J'ai une question. Vous avez décidé, c'était il y a peu de temps, de devenir une société européenne. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change sur le plan, je sais pas, fiscal du business? C'est une décision fiscale?
Non, c'est pas une décision fiscale. Il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur qui a été retenu.
Il y a très
retenu...
peu de sociétés européennes.
Oui, on a un certain nombre, une trentaine,
peu,
une Airbus, quarantaine. Une trentaine, une quarantaine. Il y a le VMH. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont Atos, SAP, qui sont désormais SE. Vous savez, quand on a 30 laboratoires à travers l'Europe, une population européenne, enfin, d'assaut système, je veux dire, d'ingénieurs, qui, le fait d'avoir une identité commune, de créer une envie d'avoir un marché intégré. Le politique a fait des choses, mais maintenant c'est à l'économie de faire que l'espace européen devienne un espace de jeu pour les start-up, comme les Américains bénéficient d'un espace de marché important.
Le siège reste basé en France.
Le siège reste basé en France, bien sûr. Ouais.
Et votre fiscalité, elle est quoi? Parce que souvent, surtout en ce moment, quand même des décisions fiscales, des arbitrages en tous les cas.
Oui, il y a des arbitrages. Alors, on fait un peu d'optimisation fiscale, mais enfin, je vous rassure tout de suite, on est dans des taux d'impôt, d'un taux marginal qui est autour de 38%. Mmh. Donc, je veux dire, c'est pas comme un certain nombre de sociétés du net qui aujourd'hui ne paient pas leurs impôts dans les différents pays. On n'est pas dans ce cas-là. Vous savez, c'est facile pour regarder combien l'entreprise paye d'impôts, vous vous rendez compte pour savoir exactement si...
Oui, non, mais si c'est... Donc, pour comprendre, en réalité, cette décision.
38%, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est 3 ou 4 points de plus que la plupart de nos concurrents. Donc, vous voyez, on n'en est pas encore à passer sous une ligne qui ne serait pas raisonnable. Mais le plus important, c'est de créer un état d'esprit qui fasse que Dassault Systèmes, pour poursuivre sa conquête et sa présence dans le monde, puisse s'appuyer sur une racine France, racine Europe, en disant ce territoire... Nous sommes chez nous, avec une capacité de changer et de gérer les carrières comme il le faut. Je trouve que le programme Europe, vu de l'économie, vu de l'industriel, est important. Airbus en fait partie et bien d'autres entreprises, Dassault Systèmes aussi.
On a beaucoup parlé ces temps-ci, cette semaine, il faut dire que c'est une semaine riche en actualité. Prélèvement à la source, pour vous, ça vous inquiète, enfin, en tant que chef d'entreprise, où vous dites ça sera facile à mettre en place?
Non, il va y avoir une complexité. Évidemment, on le sait, c'est adopté par plusieurs pays depuis longtemps.
Il reste la Suisse.
C'est adopté aux États-Unis. On a des entreprises dans tous ces pays, donc on connaît la chose. Je pense que ça va être une transition qui va pas être facile. Et je pense qu'aussi il y a un facteur psychologique, c'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'à la fin, ce que vous allez recevoir sur votre fiche de paye,
ça sera tout petit.
Et donc là, je dirais que c'est plus la transformation sociétale que technique qui me préoccupe. Et puis j'espère que ce sera pas une opportunité d'augmenter à nouveau les impôts parce que je trouve que c'est quand même assez élevé.
Le crédit d'impôt recherche, pour vous important, sanctuarisé, c'est une bonne chose. Est-ce que ça reste un avantage compétitif pour la France?
C'est pas un avantage compétitif, c'est un avantage qui permet de nous mettre à parité.
D'accord.
Nous ne serions pas à parité, j'ai fait les calculs, je présente d'ailleurs à quiconque des ministres poserait la question de montrer les structures de coûts et de performance, et sans ce critère impôt recherche, nous ne serions pas compétitifs en France. Grâce à ces dispositions, nous le sommes. Par contre, pour le CICE, c'est vraiment pour nous, par exemple, une catastrophe, c'est rien du tout. Ça représente moins de 2 millions d'euros, alors que les augmentations d'impôts représentent 35 millions. Donc, vous voyez, ce système, il n'est pas
adapté. Vous faites partie de ceux qui veulent qu'on l'évalue, qu'on le réévalue et qu'on le recadre peut-être éventuellement pour les allègements de charges sur les salaires plus élevés, parce que c'est plus le type de salaire que vous avez chez Dassault Systèmes.
Bon, on a quand même un système qui est compliqué aujourd'hui du point de vue fiscal. Il a besoin d'être simplifié. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je trouve que la loi Macron, et c'est une bonne loi, je regrette de voir encore des postures politiques qui sont déplorables, franchement, pour nous, parce que je considère qu'un peu de progrès, c'est mieux que pas de progrès du tout.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. On va peut-être l'imprimer en 3D. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes, était notre invité.